Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h23 et ce soir dans le débat du Club des Idées, on parle gros sous. Le Premier ministre a encore annoncé de nouvelles aides aujourd'hui pour soutenir l'économie française et les secteurs en difficulté. C'est tant mieux, oui, mais voilà, qui paiera à l'arrivée? D'où viennent les milliards qui sont injectés depuis 8 mois dans l'économie, comme si l'argent était gratuit, alors qu'on nous disait que les caisses étaient vides? Alors cette dette, faudra-t-il la rembourser? Et qui s'en chargera? Nous ou nos petits-enfants? On en parle donc ce soir avec Éric Heyer, bonsoir, directeur analyse et prévision à l'OFCE.
Bonsoir.
On en parle également avec Christian Saint-Étienne, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Et on en parle également avec Marc Toiti, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Économiste et président du cabinet d'études et de prévision ACDEFI. Alors messieurs, d'abord j'ai une question toute simple. D'où vient l'argent? C'est une question un peu naïve, c'est vrai, mais que se posent des millions de Français. D'où viennent tous ces milliards, Éric Heyer?
Aujourd'hui, admettons l'État français, donc c'est l'Agence France Trésor, quand elle va lever, ils vont lever 260 milliards, c'est sur les marchés financiers. Donc globalement, il y a aujourd'hui beaucoup d'épargne privée, et cette épargne privée, aujourd'hui, peut aller financer soit des entreprises, soit aussi de la dette publique. Et donc aujourd'hui, l'Agence France Trésor peut aller lever soit sur les marchés financiers, ou alors il y a des banques centrales également qui peuvent aussi prêter aux États. Alors, ce n'est pas vraiment le cas normalement sur le marché primaire en Europe, mais ça peut être aussi les banques centrales qui prêtent.
Auprès de qui, Christian Saint-Étienne, ces emprunts sont levés?
Ça sera auprès de ce qu'on appelle les investisseurs finaux, c'est-à-dire in fine les épargnants, les personnes qui... quand vous déposez de l'argent sur un livret, ou quand surtout vous achetez...
On détient des petits bouts de dette d'État,
oui, quand vous achetez, surtout quand vous détenez de l'assurance-vie, en réalité, l'essentiel de l'assurance-vie, 80% de l'assurance-vie est investi en dette publique. Donc, vous détenez de l'assurance-vie, mais en réalité, à travers l'écran de la compagnie d'assurance, vous détenez de la dette publique.
D'accord. Marc Toiti, d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les 500 milliards de dettes supplémentaires liées au Covid, on est en train de les emprunter auprès des investisseurs du monde entier et aussi des petits épargnants français d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Ça, c'est, on va dire, pour le côté connu, mais il y a également un côté un peu moins développé, ce qui est ce qu'on appelle la planche à billets de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'effectivement, via l'intermédiaire des banques, c'est quand même aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui finance une grande partie de cette nouvelle dette. Donc, c'est ce qui permet justement, parce que c'est ça le miracle un peu de cet argent gratuit, c'est que normalement, quand on s'endette, eh bien, les taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette augmentent. Là, le miracle qui se produit, c'est que plus la dette publique augmente, que ça soit en France, en Italie, même en Grèce, plus les taux d'intérêt baisse. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a mis des taux d'intérêt qui sont négatifs sur la dette publique. Et ça, c'est ce qui fait que, grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle cette planche à billets, c'est grâce à ça que cette dette paraît indolore. Mais elle est bien là, effectivement, et donc il faudra la payer.
Alors, la planche à billets, on va l'entendre. Ça fait ce bruit-là, une planche à billets. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a la planche à billets qui tourne à fond la caisse dans les sous-sols de la Banque Centrale Européenne, Christian Saint-Étienne.
Il y a un petit point technique quand même qu'il faut rappeler, c'est que la Banque Centrale n'a pas le droit de financer directement les États et donc en réalité, elle rachète la dette émise par les États sur les marchés financiers, donc c'est bien les marchés qui financent. Et ensuite, la Banque Centrale vient en seconde ligne racheter la dette qui avait été dans un premier temps acheté par les marchés.
Petite parenthèse.
Alors, néanmoins, in fine, la Banque Centrale Européenne est aujourd'hui un des financeurs finaux principaux de la dette publique en Europe. Et donc, la BCE est l'acteur qui contribue de manière décisive au phénomène qu'évoquait Marc Toiti il y a quelques secondes, à savoir le fait qu'en dépit de la montée colossale de cet endettement, nous empruntons à des taux très faibles.
Alors, simple question, parenthèse, parce qu'on va y revenir après. Mais donc, CQFD, si les dettes sont détenues par la Banque Centrale Européenne, ça veut dire qu'on peut les annuler, parce que la BCE peut prendre ses pertes. Éric Heyer.
Alors, il faut savoir, une banque centrale, ça appartient aux États. Donc, du coup, si la banque centrale fait des pertes, alors, in fine, elle va remettre ses pertes aux États. Et inversement, si elle fait des bénéfices, eh ben, elle reverse à ses actionnaires. Ouais. Donc, vous voyez, ça, on peut considérer que payer des intérêts à la Banque centrale, ce n'est pas si grave, parce que si elle fait effectivement une partie des gains, les États les récupéreront. Donc, c'est un peu à vase clos. Mais attention, alors, c'est vrai que c'est un peu technique, mais ce n'est pas de la vraie monétisation. Hein. Il ne faut pas avoir la planche à billets, justement. Aujourd'hui, l'argent, ça a été rappelé par Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire que elle leur achète à des banques et donc elles ouvrent des comptes pour la banque. Et donc, c'est ce qu'on appelle des réserves obligatoires. Et donc, ce n'est pas de la vraie monnaie, ce n'est pas en circulation. Oui. Au bout d'un moment, on peut le monétiser, mais pour l'instant, ce n'est pas de la vraie monétisation.
Bien, on a à peu près tout compris, messieurs. Donc, on va pouvoir maintenant débattre. Qu'est-ce qu'on en fait de cette dette et comment on la rembourse? On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, c'est la suite du débat du Club des Idées. Et ce soir, on parle de la dette Covid. Les milliards pleuvent en ce moment sur la France. C'est bien, car ça permet de soutenir l'économie française, mais ça coûte très cher. Alors, in fine, qui va rembourser? On en parle donc ce soir avec nos invités. J'ai une question, tiens d'ailleurs pour vous, Eric Heyer, directeur analyse et prévision à l'OFCE. À combien elle s'établit aujourd'hui, cette dette Covid? On entend partout que le déficit public atteindra les 120% du PIB d'ici à la fin de l'année. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, ouais. 120%, parce qu'on était en dessous de 100% il n'y a encore pas si longtemps. Mais à combien elle va s'élever au total, cette dette Covid?
Alors, attention, vous avez dit déficit alors que c'est dette, d'accord? Donc là, c'est la dette publique qui s'élève à 120%. Le déficit, il devrait se situer...
Oui, j'ai dit déficit, pardon.
Plutôt vers les 11%, c'est pas grave. Mais du coup, ce qui est lié à la Covid, exactement, enfin, c'est ça qu'il va falloir bien déterminer. Dans l'augmentation du déficit, vous avez une partie conjoncturelle, parce qu'on a mis sous cloche l'économie. Bon, ben voilà, donc l'activité a chuté. Et donc, cette chute d'activité, il y a moins de recettes associées. Donc, le déficit augmente par ces mécanismes-là. Mais ça, on peut dire que c'est que conjoncturel. Une fois que ça va repartir, ce déficit-là va se résorber. Et vous avez une partie un peu plus structurelle, c'est-à-dire qu'il y a des aides qui sont données. Mettons, lorsqu'on décide avec un plan de relance de baisser, mettons, les impôts à la production, ça va rester même après le Covid. Et donc ça, c'est effectivement une dette qui est, on peut considérer, dette Covid. Alors, c'est un peu plus compliqué de distinguer ce qui est du conjoncturel et du structurel. Ce que l'on peut dire, c'est que normalement, enfin, si on croit les projets de loi de finances, on aurait dû être à 99%, un peu moins de 100 en 2020. On va être plutôt aux alentours de 120. Donc, une première approximation peut être 20 points de PIB. Mais en fait, c'est moins que cela parce qu'il y a une partie qui est très conjoncturelle.
Et aujourd'hui, la dette, c'est 2 500 milliards d'euros, c'est ça à peu près?
C'est ça.
Mmh. Oui, ça fait peur comme chiffre quand même.
C'est beaucoup. Bien.
Alors, 2638 exactement, c'est les derniers chiffres du deuxième trimestre. Mais on va aller beaucoup plus loin effectivement dans les prochains mois. Et puis évidemment, tout l'enjeu, c'est de pouvoir encore une fois isoler cette dette. C'est quasiment impossible, hein, comme l'a dit Eric. Mais le vrai problème de la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité. C'est-à-dire que s'endetter à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais il faut que cette dette génère une croissance économique suffisamment forte, d'abord pour créer les emplois, ensuite pour réduire les déficits, et puis au moins pour payer les annualités de la dette.
Oui.
Ce qui aujourd'hui est loin d'être garanti. Donc c'est ça le problème. C'est pas la dette en elle-même, c'est le fait que malheureusement elle n'est pas efficace.
Oui.
Elle produit des aides, mais elle ne génère pas malheureusement de dynamisme économique.
Alors je voudrais qu'on s'arrête sur le débat du moment. Rembourser ou pas cette dette? Bruno Le Maire, ministre de l'économie, voici ce qu'il dit.
Je pense qu'une dette, ça se rembourse et qu'il est important d'expliquer aux Français comment nous allons rembourser. Parce que qu'est-ce qu'ils craignent, les Français? Une augmentation des impôts. Ils se disent demain, on va augmenter les impôts pour rembourser la dette. Tant que je serai ministre des Finances, nous n'augmenterons pas les impôts des Français. Sur le calendrier, nous nous fixons 20 années pour rembourser cette dette Covid.
Et Bruno Le Maire nous dit une dette, ça se rembourse. Mais à l'inverse, Arnaud Montebourg dit ceci.
Moi, j'ai une proposition à faire. C'est une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays membres de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui donc ne spoliera personne et qui peut être parfaitement annulé car la Banque des règlements internationaux, qui est la Banque Centrale des banques centrales aujourd'hui, recommande cette solution pour pouvoir détruire en quelque sorte de la monnaie. Moi, je proposerai un contrat de réinvestissement dans la reconstruction écologique de l'agriculture et de l'industrie.
Bon, on va être clair. Il y a trois manières de rembourser une dette. La croissance, mais il en faut beaucoup, beaucoup hein, pour générer suffisamment de croissance pour rembourser tout ça. L'augmentation des impôts. Le ministre de l'économie a dit, moi vivant, ça n'arrivera pas. La réduction des dépenses et du coût du fonctionnement de l'État. Alors là, il y a peut-être un fil à tirer, Christian Saint-Etienne.
Il y a un quatrième moyen qui s'appelle l'inflation. Mais on y viendra peut-être après.
Laissez
alors effectivement,
les prix,
on va avoir un déficit de l'ordre de 11 points de PIB cette année, 8 points de PIB l'année prochaine. Ce n'est pas soutenable. La question clé, c'est la question de la soutenabilité. Si On a une croissance qui revient à la tendance qui est,
1,25, 1,5. Oui.
Effectivement, on va traîner cette dette pendant extrêmement longtemps et se posera alors la question. En fait, il y a deux questions concernant la dette et la dépense. Pour la dette, c'est la soutenabilité. Pour la dépense, c'est son efficacité. Quand avant, la dernière année standard pour réfléchir à cette question, c'est l'année 2019, la dépense publique en France était, selon l'OCDE, en norme OCDE, juste en dessous de 56 points de PIB.
Oui.
Si on enlève les crédits d'impôt, on est à 54 points de PIB. Mais si on retient la norme internationale de 56 points de PIB, le problème...
Il faut la rembourser, la dette, ou pas?
Alors ça, là, je suis sur la dépense. La dépense était à 56. Et la question, si vous voulez, c'est que on était 12 points de PIB au-dessus de l'Allemagne.
Oui.
Alors que l'Allemagne a des excédents extérieurs, un taux de chômage moitié moindre.
Bien.
Donc ça veut dire que cette dépense publique, parce que vous évoquiez dans les quatre moyens que nous évoquions ensemble,
oui,
la possibilité de réduire la dépense. La question, c'est est-ce que la dépense française est de bonne qualité? Est-ce qu'elle sert à accélérer la croissance ou pas? La réponse, de toute évidence, est non, puisque avec un niveau de dépense très supérieur au niveau de dépenses des autres pays de la zone euro, on a une croissance faible, un niveau de chômage très élevé.
Donc, réduction du coût de l'État.
Donc
réduction
la question,
du fonctionnement de l'État.
Oui, c'est surtout une politique qui conduise à améliorer très fortement la qualité de la dépense. On peut, par exemple, déjà dire aux Français qu'il est peu probable qu'il y ait une augmentation d'impôts, mais qu'il est très probable qu'on recule l'âge de départ à la retraite.
Oui.
Pourquoi?
Ça, je
pense
que tout
le monde
avait compris. Parce
que les seules retraites, c'est un quart de la dépense.
Alors, Éric Heyer, comment on fait pour rembourser cette dette? Vous êtes d'accord? Le seul levier, c'est réduire les dépenses publiques?
Non, ce qu'il faut payer, c'est les intérêts sur la dette. Ça, il faut les payer. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui...
Parce que la dette, on s'en fiche?
Attendez, chaque chose en son temps. D'abord, la seule chose qu'on est obligé de payer, ce sont les intérêts. Bon, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les intérêts sur cette dette sont négatifs, jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'au contraire, aujourd'hui, quand on s'endette, on n'a pas à payer d'intérêt, au contraire, on reçoit de l'argent.
Oui.
Donc là, ça tombe bien, on peut s'endetter.
Mais quand les taux d'intérêt vont remonter, ça ne sera pas la même histoire.
On verra, parce que vous voyez, ça fait à peu près 10 ans, 15 ans qu'on nous dit que les taux d'intérêt vont augmenter, ils ne cessent de baisser.
Oui.
Vous voyez, donc il faut aussi comprendre pourquoi. Et là, j'en viens à ma deuxième idée, c'est que pourquoi aujourd'hui les taux d'intérêt baissent, ce n'est pas uniquement à cause des banques centrales, puisque ça a commencé avant que la banque centrale commence à racheter de la dette. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin, il y a beaucoup d'épargne et il y a un besoin d'actifs sûrs. Et les seuls actifs sûrs qui existent...
C'est la dette des États.
C'est la dette des États. Et parmi la dette des États, la dette française est extrêmement bien notée. Pourquoi? Parce qu'en face de ce passif, on ne parle que de la dette, mais en face de ce passif, il y a beaucoup d'actifs. C'est-à-dire que les administrations publiques ont 120 points de dette, mais ils ont beaucoup plus d'actifs, ils ont 140 points d'actifs.
Donc, l'État est riche dans son patrimoine.
Les administrations publiques au sens large. Donc vous voyez, la question n'est pas réellement de savoir est-ce qu'il faut baisser la dette, c'est à quoi a servi cette dette.
Oui.
Est-ce que cette dette sert effectivement à améliorer les actifs des administrations publiques, ou alors est-ce que ça sert à financer des retraites? Alors, c'est sûr que si c'est pour financer des retraites, c'est pas intéressant, effectivement.
Oui.
C'est à la génération d'aujourd'hui à la financer. En revanche, si c'est pour effectivement investir dans la transition écologique, si c'est pour garder des actifs,
éducation,
là, ça peut être intéressant.
Alors, Bertrand Badré est également avec nous, ancien directeur général de la Banque mondiale, fondateur d'un fonds d'investissement. Bertrand, vous avez écouté sagement tout ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut laisser filer la dette parce que la France a des actifs sûrs et faire comme les Japonais, plus de 250% de dette. C'est possible, ça?
Alors j'ai écouté effectivement très très sagement. Ce que disait Éric Heyer est exact, c'est qu'on est dans une situation qui est très particulière, où grâce à la Banque Centrale Européenne, essayons d'imaginer ce que ça serait si on était encore avec le franc français. Donc on peut se bénir d'avoir créé l'euro et d'avoir une Banque Centrale Européenne qui nous permet de faire ça. On a la capacité de gérer le coût de cette dette et la durée de cette dette. Donc ça nous donne une immense flexibilité. Le risque derrière tout ça, c'est la confiance dans le système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens ne font plus confiance, le système peut s'effondrer. C'est impossible de le modéliser, ça n'arrivera peut-être jamais, ça arrivera peut-être dans 50 ans, ça arrivera peut-être plus tôt, et c'est la clé. Et donc pour l'instant, effectivement, c'est pas de laisser filer la dette, mais ce qu'on fait aujourd'hui est raisonnable. Ça ne veut pas dire que c'est soutenable dans la durée, mais que c'est parfaitement raisonnable.
Alors,
de faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Si c'est pas soutenable dans la durée,
et le débat est identique aux États-Unis d'ailleurs.
Enfin,
c'est pas la Réserve fédérale a même été d'ailleurs beaucoup plus agressive que la Banque centrale européenne de ce point de vue-là.
Mais Bertrand Badré, pour être tout à fait concret, j'évoquais tout à l'heure les trois manières de rembourser une dette, ou en tout cas de rembourser les intérêts de la dette, pour reprendre ce que disait Éric Heyer. Que faut-il faire en France face à cette dette Covid qui va s'alourdir ? Augmenter les impôts ? Réduire le train de vie de l'État et les dépenses
réalité,
publiques ?
La réalité, c'est que dans la durée, ce sera les trois. Je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. Bien sûr, Bruno Le Maire ne va pas dire aujourd'hui, alors qu'on est en pleine dépression, qu'on va augmenter les impôts. Ce serait suicidaire. Ce qu'il faut, c'est réamorcer la croissance. Avec des taux très bas, on n'a pas besoin d'autant de croissance que quand les taux étaient très élevés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il faut redonner de l'air à l'économie. Les impôts, les gérer dans la durée. Et évidemment, travailler sur la dépense. Je souscris à ce qui a été dit notamment par Christian Saint-Etienne.
Oui.
Donc on va. Et la bonne nouvelle, c'est que effectivement, la BCE nous permet de gérer ça dans la durée. On a du temps. Quand Bruno Le Maire dit on va gérer pendant 20 ans, c'est exact. Enfin, on peut faire ça aujourd'hui,
bien,
grâce à la BCE.
Vous partagez ce qui a été dit, Marc Toiti, voilà, faut faire un peu les trois à la fois et puis ça va durer plus de 20 ans, comme l'a dit le ministre Bruno Le Maire.
Moi, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Parce qu'en fait, effectivement, quand on entend Arnaud Montebourg dire, et il n'y a pas que lui, hein, dire oui, mais cette dette, on n'aura pas à la rembourser, on va rembourser que les intérêts, etc. Non, même, il faut rembourser le capital, de toute façon. Alors, pas tout de suite, bien sûr, mais avec le temps, ça va se faire. Et quand bien même, parce que moi, je me suis posé la question, il faut rentrer dans le scénario où on dit, ben voilà, on ne rembourse pas la dette. Regardez, aujourd'hui, en Italie, le gouvernement a commencé à dire, ben on va pas rembourser la dette Covid. Donc, l'idée commence à percer même au niveau des dirigeants politiques. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ben, admettons qu'on y arrive par un coup de baguette magique. Le problème, c'est justement ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. C'est ensuite la crédibilité. À la rigueur, ok, vous annulez une partie de votre dette passée. Mais la dette à venir, vos déficits à venir, plus personne voudra vous financer. Et c'est là où, justement, les taux d'intérêt vont augmenter parce qu'on sera plus du tout crédible. Et là, qu'il y ait la BCE ou pas, si les taux d'intérêt augmentent, ça cassera l'activité économique, ça fera du chômage. Et au moment où juste on pouvait redémarrer en 2021-2022, c'est là où on va rechuter. Donc c'est ça qui est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être responsable de ce point de vue-là. Il faut dire la vérité aux Français, et malheureusement, c'est vrai, je pense que les impôts augmenteront, ou alors, il faut effectivement avoir une croissance plus forte sur l'innovation, sur la technologie.
Alors, la France n'est pas la Grèce, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire récente, l'augmentation des dettes souveraines, ça n'a jamais été bénéfique aux populations, Éric Hillière. C'est jamais bon, quand même.
Ah, je ne sais pas ce que... Parce que, en fait, baisser la dette publique, ce n'est pas bon non plus pour les populations. Vous voyez, donc, on ne sait pas, mais vous voyez, c'est des questions qui sont dans les thèmes de recherche. Quel est le bon niveau de la dette publique? On n'a pas la réponse.
Hein. On n'a pas la réponse.
Non, on n'a pas la réponse. On a cru l'avoir à un moment avec 90, mais l'étude en question avait été un peu manipulée. Et donc, globalement, il n'y a pas la bonne réponse. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on raisonne aujourd'hui en dette brute, d'accord? Alors que ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Il faudrait raisonner en dette nette. Il faut savoir à quoi a servi cette dette. C'est ce qu'on a dit. Et puis alors... Ensuite, ce problème de génération, à mon avis, est un faux problème. C'est-à-dire que, vous voyez, la dette publique, elle est détenue par la génération d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui des personnes, vous, moi, qui détenons la dette publique.
Oui.
Et donc, et pareil des assurances-vie. Et donc, dans 20 ans, 30 ans, ça sera nos enfants qui hériteront de de nos assurances-vie. Et donc, globalement, quand on va augmenter potentiellement les impôts, ça sera pour payer la génération plus tard aussi qui détient cette dette. Donc, attention, ce n'est pas des transferts intergénérationnels, c'est intragénérationnel. C'est-à-dire qu'on va payer à celui qui détient la dette. Celui qui détient la dette, il sera dans la génération future.
Christian Saint-Etienne.
Alors, il ne faut pas paniquer les auditeurs. Éric Hillière a justement dit que le point central, c'est d'honorer les intérêts sur la dette parce qu'à ce moment-là, la machine s'arrête. Il y a un autre élément clé, en dehors de la question du bon niveau de dette, qui est l'équilibre extérieur.
Oui.
Alors, je vais le dire très simplement. Quand votre balance courante est équilibrée, ça veut dire que le déficit public est en fait financé par l'excès d'épargne des autres grands acteurs que sont les ménages et les entreprises. Vous évoquiez tout à l'heure le cas du Japon. Vous avez dit, est-ce qu'on peut monter à 250% de dette? D'abord, au Japon, une grande partie de la dette publique est en fait détenue par des acteurs publics. Donc, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que le Japon a des excédents extérieurs, ce qui veut dire que la quasi-totalité de la dette publique japonaise est détenue par les Japonais. C'est un peu le cas de l'Italie où le taux de détention par les Italiens est beaucoup plus élevé qu'en France. Moi, ce qui me préoccupe au moins autant que la question de la dette, c'est celle du déficit extérieur. Parce que ça veut dire qu'au fond, on accumule à la fois une dette interne, mais également une dette externe. Donc, si on veut répondre in fine à votre question, je pense que ce qu'il sera important de faire à partir de 2021-2022, une fois qu'on aura passé cette crise, c'est commencer à réduire le déficit. sans trop s'inquiéter du montant de la dette, mais revenir à un niveau de déficit qui permette au moins de stabiliser le niveau de la dette en pourcentage du PIB. Et l'autre point, c'est de mener une politique économique très forte qui nous permette d'équilibrer nos importations. On en revient à la qualité de la dépense. Si la dépense permet d'augmenter le potentiel productif, il n'y a pas de problème. Si ça finance uniquement des retraites ou des prestations ou des dépenses de fonctionnement, on n'avance pas collectivement.
Alors, je voudrais partager avec vous des archives. On va remonter un peu le temps pour vous montrer pourquoi on a ce débat ce soir sur la dette. C'est que depuis 50 ans, on nous bassine, nous les Français, avec cette histoire de dette.
Nous héritons de la dette, nous héritons du déficit, nous héritons de l'inflation. La note est beaucoup plus lourde qu'on ne le suppose.
Il y a une dette, il y a des dettes sociales. Elles feront l'objet, en effet, d'un prélèvement qui a été défini pour être le plus équitable possible.
J'ai été un peu surpris du débat sur de prétendus excédents fiscaux. Il n'y a pas d'excédents fiscaux dans un pays qui a plus de 200 milliards de francs de déficit de ses comptes publics.
Un pays qui a 1000 milliards d'euros de dette doit consacrer le surplus des recettes de la croissance au désendettement et à la réduction du déficit.
Voilà, on est remonté à 73 avec François Mitterrand, ensuite Jacques Barrot 95, Dominique Strauss-Kahn en 99, ministre de l'économie, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'économie, en 2004. Bertrand Badret, la dette, on nous en parle depuis 50 ans en nous disant que c'est à nous, Français, de rembourser cette dette. Est-ce qu'on est dans le vrai? Parce que, à vous entendre ce soir, en fait, c'est les intérêts de la dette qu'on rembourse, et c'est pas si grave si la dette de la France dépasse les 120% de PIB.
Oui. Alors, ce qui m'amuse, c'est que vous réveillez des souvenirs que vous n'avez pas mentionnés. C'était la dissolution de 1997 qui s'était faite aussi sur le thème de contrôler la dette. Et à l'époque, j'étais petite main au ministère des Finances et j'avais fait sur mon tableur, sur mon PowerPoint, le tableau de la boule de neige de la dette. Donc ça me rappelle des souvenirs très, 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 très précis. Non, je crois qu'il faut distinguer ce dont on parle tout à l'heure, que fait-on dans la durée. De la réponse à une crise qui est la crise de cette année. Et la crise de cette année, on sait tous autour de cette table que ça coûte toujours beaucoup plus cher de ne pas traiter la crise quand on est dedans que de le faire trop plus tard. Donc il faut traiter avec tous les moyens possibles la crise aujourd'hui et après avoir une stratégie dans la durée qui est une stratégie de retour de la croissance, de travailler sur les équilibres extérieurs, enfin la partie PNB, de l'équation dette sur PNB, et puis après travailler sur l'équilibre impôts-dépenses. Et donc il faut vraiment distinguer ce temps dans la réflexion, et il ne s'agit pas de faire peur. Mais c'est vrai que c'est très troublant, de même que quand on avait fait très peur en disant quand on va perdre la notation AAA, c'est notre trésor national. Mais c'est très compliqué parce qu'on dit la dette va nous coûter plus cher. Et puis en fait, on a perdu le AAA et la dette nous a coûté moins cher. Donc il y a un très gros travail de pédagogie à faire. Le débat de ce soir en est parti pour qu'on comprenne tout ça.
Marc Touati, qui va payer via une hausse des impôts? Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas se mentir, les impôts vont augmenter, peut-être pas sous Bruno Le Maire, mais ça va arriver. Qui paiera? Est-ce que ça sera les plus riches ou ça sera tout le monde?
Ben malheureusement, je pense que comme toujours, c'est tout le temps la classe moyenne qui paye le plus. Alors, le danger, c'est bien sûr qu'après, il y ait des ponctions sur l'épargne, etc. Enfin, des nouveaux impôts qui n'existent pas aujourd'hui et qui arrivent. C'est ça qui est évidemment le danger. Mais quand même, juste pour rebondir à ce que vous avez dit, parce que vous dites, bon, la dette, ça fait des années qu'on nous en parle. Oui, mais en 1980, la dette publique, c'était 20% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était gérable. Aujourd'hui, c'est donc 120 ou 125% du PIB. Donc là, c'est ça qui est compliqué. C'est que on est dans l'inconnu. Hein. Alors, évidemment, hein, c'est le titre de mon dernier livre que j'appelle j'ai appelé Reset, je lui dis peut-être on va faire une grande remise à zéro, puis on va arrêter. Le grand problème, il est là, c'est qu'effectivement, bien sûr, si, pourquoi pas faire un reset, faire une remise à zéro, mais il faut repartir sur des bases plus saines ensuite. Si ensuite on a effectivement la garantie qu'on va avoir une croissance plus forte, qu'on va avoir un chômage plus bas, ben je dis moi, allons-y, annulons la dette. Mais malheureusement, c'est loin d'être aujourd'hui garanti. Donc c'est ce qui fait que, c'est ma crainte malheureusement, que demain, on ait cette tentation, vous savez que la France est déjà numéro un mondial des impôts, donc ça risque malheureusement de continuer. Et si on augmente les impôts, on casse la croissance, et donc à la fin,
merci,
on n'a rien gagné.
Merci Marc Touati. Un dernier mot, Eric Hier, il nous reste quelques secondes. En fait, sous couvert de dette, la dette a bon dos pour justifier les hausses d'impôts, si je vous entends bien ce soir, les uns et les autres.
Alors, disons que souvent, pour augmenter les hausses d'impôts, on dit que nous sommes en faillite et que l'État est en faillite. Alors ça, c'est vraiment une belle bêtise. Effectivement, l'État n'a jamais été en faillite et l'État ne sera pas en faillite, en tout cas pas dans les 20-30 prochaines années. Donc ce n'est pas sous cet argument-là qu'il faut potentiellement aborder soit les réductions de la dépense publique, soit les augmentations d'impôts. Non, il faut l'aborder plutôt sur l'efficacité de la dépense publique et qui doit payer. Mais encore une fois, l'État ne sera pas en faillite et donc il va falloir gérer bien et correctement les finances publiques, mais sans être trop alarmiste de ce point de vue-là.
Bien, merci messieurs les experts, merci de nous avoir éclairés sur ce débat parfois un peu compliqué de la dette publique et de son remboursement. Merci.